Hacız köpeği. Hacız köpeği.
Profesör Bourguignon.
Jacques Chancel. André Bourguignon, vous êtes professeur de médecine, médecin-chef, responsable du secteur psychiatrique des communes de Bonneuil et de Créteil. Vous avez tous les titres, mais je vais vous épargner. Vous auriez pu être seulement médecin, et lorsque je dis seulement, ça n'est pas du tout péjoratif, car c'est une belle mission, mais vous avez voulu être, de plus, psychiatre. Et je crois que cela tient à une démarche particulière.
Oui. Quand j'ai commencé mes études de médecine, je souhaitais être psychiatre. Et puis, mon père travaillait dans le domaine de la neurophysiologie et j'étais entraîné au laboratoire. Et pendant 15 à 20 ans, j'ai fait exclusivement du laboratoire. Et puis, la vocation n'avait pas disparu, elle est revenue. Et dès que l'occasion s'est présentée, je me suis orienté, cette fois définitivement, vers la psychiatrie.
Peut-on dire qu'il s'agit là d'une hérédité? Vous parlez de votre père.
Oui, mon père était...
D'une tentation, disons.
Peut-être, non. C'était peut-être un peu une façon de me démarquer par rapport à mon père, dans la mesure où mon père, lui, était vraiment un homme de science pure, travaillant uniquement au laboratoire, faisant de la physiologie et de la neurophysiologie. Moi, je voulais m'approcher davantage des êtres humains.
Vous avez eu d'autres frères?
Oui, j'ai eu deux frères et j'étais d'une famille de 5 enfants. J'étais le second. J'ai un frère qui a été tué à Hanoï en janvier 47. Et puis j'ai un frère qui est mon frère aîné, qui est mort après une longue maladie avec insuffisance respiratoire et insuffisance cardiaque. Et lui aussi était étudiant en médecine.
On se méfie parfois des psychiatres. Pourquoi? Vous n'avez pas bonne réputation. Ou est-ce seulement le métier?
Je pense que c'est dû au fait que la maladie mentale et ceux qui s'en occupent sont un peu rejetés par la société et que le rejet qui frappe les malades mentaux frappe également les psychiatres.
Tout ce qui est anormal est rejeté.
Oui, c'est d'ailleurs une réaction tout à fait spontanée dans certaines cultures, tout au moins.
Et injuste.
Injuste, oui, parce que tout être humain, quel que soit son état, mérite le respect, je pense.
Est-ce une vie de moine bénédictin que celle d'un professeur de psychiatrie?
S'il y a une vie dure, c'est peut-être pas tant du côté de l'enseignement que du côté de la pratique de la psychiatrie, qui est évidemment une pratique très, très dure, dans la mesure où nous n'avons pas toutes les satisfactions et tous les moyens puissants dont disposent la médecine et la chirurgie de pointe. Nous sommes relativement désarmés et il faut que nous assumions une certaine humilité, une certaine modestie, car il faut bien reconnaître que malgré tous les progrès qui ont été faits, la psychiatrie n'est pas encore triomphante quant à ses résultats.
Elle le sera.
On peut le souhaiter, mais le problème est beaucoup plus complexe que dans le domaine des maladies du corps, disons, parce que dans le domaine de la psychiatrie, il y a des interférences très étroites entre ce qui est strictement la psychopathologie, ce qui est le social, tout ce qui concerne toutes les sciences de l'homme. Enfin, nous sommes un peu dans le flou et devant des difficultés méthodologiques que ne rencontrent pas des disciplines qui sont plus directement centrées sur des techniques efficaces.
Y a-t-il des moments où vous voudriez mieux expliquer à l'opinion ce que vous êtes et ce qu'est surtout la psychiatrie?
Oui, c'est peut-être pas tant le désir d'expliquer à l'opinion ce qu'est la psychiatrie, mais ce que sont les malades mentaux et peut-être aider l'opinion à mieux les supporter, à lui faire comprendre qu'ils ne sont pas si dangereux qu'on le dit. Malheureusement, la presse quotidienne ne nous rend pas toujours service. On accepte assez volontiers, et sans trop y faire attention, les morts dues à l'automobile pendant le week-end, mais quand par hasard un malade mental tue un de ses prochains, eh bien, immédiatement, toute la presse s'empare de l'événement et fustigent plus ou moins les psychiatres, leurs méthodes libérales, compréhensives. Or, je pense que la dangerosité des malades mentaux est très, très exagérée, très surestimée. Et en entretenant cette peur quasi chronique dans l'opinion publique, je pense qu'on nous complique considérablement la tâche.
On ne vous comprend pas.
Oh, je ne sais pas si c'est une question de compréhension. Enfin, je crois que c'est un problème d'intolérance. Notre société tolère très mal les différences, les déviances. D'ailleurs, ce n'est pas le propre des malades mentaux. Il y a toute une catégorie d'êtres humains qui sont mal tolérés parce que différents.
Le médecin que vous êtes comprend-il que les hommes soient intolérants à ce point?
Ah, je comprends très bien leur intolérance, mais je voudrais les aider à se débarrasser de cette intolérance, pour le bien de tous d'ailleurs.
C'est une hérédité naturelle, l'intolérance?
Oh, je ne crois pas que ce soit une hérédité naturelle. Enfin, d'abord, le problème de l'hérédité est compliqué. Disons que c'est une attitude humaine assez généralisée, dans la mesure où les êtres humains aiment bien se retrouver dans un groupe homogène où tout le monde pense la même chose, où il n'y a pas de conflit, où tout est aplani. Alors qu'en fait, l'histoire de l'humanité montre qu'il n'y a eu de progrès et d'avancement que dans les conflits, dans les heurts d'idées, d'opinions. Et je pense que la tolérance, c'est un facteur de progrès considérable. Enfin, il y en a eu d'autres plus grands qui se sont chargés de prêcher la tolérance dès le XVIIIe siècle.
Mais l'intolérance vient d'une grande peur?
Je pense que nous sommes angoissés dès que nous sommes en présence de personnes différentes de nous. Nous ne supportons pas, enfin, qu'il s'agisse de la couleur de la peau, de l'aspect des cheveux, qu'il s'agisse de la manière de s'habiller, de toutes les habitudes de la vie quotidienne.
Avec vous, professeur André Bourguignon, j'aimerais bien que l'on se penche sur quatre problèmes que vous avez déjà étudiés de très près. D'abord l'adolescence, c'est-à-dire le passage de l'adolescence à la vie adulte. Ensuite le rêve, et là vous rejoindrez des préoccupations qui vous sont familières.
Oui.
Ensuite la folie, et enfin la mort. D'abord l'adolescence, le passage de l'adolescence à la vie adulte. Alors quels sont les rapports entre l'adolescent ou l'adolescence et l'âge adulte? Y a-t-il des rapports? Car l'accès à la vie adulte est un accès difficile.
Et combien? Et plus difficile que jamais. D'abord, je crois qu'il y a un certain malentendu sur les mots, parce que le concept d'adolescence ne recouvre plus les mêmes choses qu'autrefois. Autrefois, quand l'évolution était lente, quand les progrès étaient insensibles, l'adulte était dans une position indiscutable de supériorité, parce qu'il avait de l'expérience, parce qu'il avait un savoir. Or, la situation est complètement transformée maintenant, dans la mesure où les adolescents, très souvent, en savent plus que les adultes dans un certain nombre de domaines. Il n'y a qu'à voir la panique des parents devant les mathématiques modernes, par exemple. Or, c'est une situation absolument nouvelle. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que l'âge du passage à la vie adulte n'a cessé de reculer.
C'est quel âge maintenant? Autrefois, c'était 12-18 ans.
Oh oui, sous le 14, on était lieutenant des armées du roi à 14 ans.
Oui.
Et maintenant, dès qu'on se met à faire des études supérieures, on
termine à 28.
Oui. Donc on accède au statut socio-professionnel et socio-économique de l'adulte que très tard. Ce qui crée des disharmonies dans la mesure où la maturation physiologique et psychologique a précédé la progression de la situation économique. Donc, ça crée des conflits inévitables, je crois.
En fait, l'adolescence, c'est un temps de passage. C'est le temps des enfants et le temps des adultes. Et au milieu, il y a l'adolescence.
Oui, dans les sociétés anciennes, les choses étaient marquées, d'ailleurs, par des rituels qui marquaient ce passage. Hein. C'était l'adoubement du chevalier, puis sont tous les rites d'initiation dans les sociétés africaines ou amérindiennes. Et maintenant, on a perdu un peu ce rituel, si vous voulez. Ce rituel, ce serait le baccalauréat, l'entrée à l'université, ou bien la sortie du lycée, l'entrée dans une école professionnelle, puis l'accès à une profession.
Et pour certains également, l'entrée à une usine et l'avenue au champ.
Exactement. Mais Et l'adolescent est actuellement dans une position très, très, très inconfortable du fait que les choses changent très, très vite. Il ne peut pas avoir un plan de vie qui soit structuré avec une certaine sécurité, parce que il est tel qu'il est aujourd'hui, et peut-être que dans 10 ans, les choses seront totalement différentes, ce qui crée quand même une certaine angoisse. Autrefois, la carrière était un peu tracée en fonction de la profession du père. Les choses étaient un peu jouées d'avance. On savait que si on s'engageait sur telle voie, eh bien, on arriverait à telle ou telle carrière.
Aujourd'hui, rien n'est acquis.
Rien n'est
acquis. C'est une chance aussi.
Oui, c'est une chance, mais c'est une situation très difficile à assumer parce qu'elle est génératrice d'angoisse et d'insécurité.
Mais professeur André Bourguignon, lorsque vous avez étudié vous-même ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, vous avez pris des informations très personnelles, vous vous êtes regardé.
Oui.
Comment avez-vous passé ce cap ?
Ah, l'adolescence de chacun, bon, elle est propre à chacun.
Et... une démarche individuelle.
Absolument, et on peut parler en termes généraux, mais on ne peut pas réduire un cas à l'autre. Enfin, personnellement, si vous voulez, la phase difficile pour moi a correspondu à la fin des études secondaires. Et puis brusquement, dès que les études secondaires ont été terminées, la situation s'est comme éclaircie, je n'ai plus éprouvé de difficultés. Mais pendant toute la fin de mes études secondaires, j'étais très, très inquiet, très pessimiste quant à l'avenir. Bon, c'était en rapport avec les problèmes personnels de maturation psychologique et affective.
L'adolescence replie sur lui-même.
Habituellement, oui. Il ne cherche pas à communiquer avec les adultes. Il ne faut pas obliger les adolescents à communiquer quand ils n'en ont pas envie. Bon, il a des attitudes de défense, il va se replier sur lui-même, ou bien il va faire de la provocation, ce qui est un mode assez fréquent, pour essayer de tester l'adulte, savoir dans quelle mesure l'adulte le supporte et lui garde sa confiance et son affection, ce dont l'adolescent a absolument besoin. Il a besoin également, de façon presque... principal, il a besoin d'un modèle d'identification.
Ça, c'est important.
Ça, c'est absolument capital. Et ce sont les adultes qui devraient apporter ce modèle d'identification. Mais quand les adultes eux-mêmes sont dans des situations très incertaines, très insécurisantes, doutent même des valeurs de notre civilisation, eh bien, ces incertitudes et ces angoisses de l'adulte se répercutent sur l'adolescent qui ne trouve plus auprès de ses parents ou de ses maîtres la sécurité dont il a un très très grand besoin.
Donc la grande question pour un adolescent, c'est la quête d'un modèle. Alors, ce modèle, ce peut être un héros, le héros d'un livre, ce peut être un homme politique, ce peut être une idole de la chanson,
oui.
Ou du cinéma, ou d'ailleurs.
La quête d'un modèle est la quête d'un système de valeurs. Or, nous sommes, enfin je pense, un tournant de civilisation dans lequel... beaucoup de valeurs sont remises en question, comme si, les valeurs sur lesquelles nous avons vécu, sur lesquelles la civilisation moderne s'est construite, étaient un peu dévalorisées, démonnayées. Bon, on sait que chaque civilisation a son système de valeurs, et quand on passe d'une civilisation à une autre, c'est-à-dire quand on change de système de valeurs, bon, c'est douloureux pour tout le monde. Le passage de la civilisation médiévale, féodale, à la civilisation industrielle, heureusement, s'est fait en 5 siècles. Donc, le changement a été lent et progressif. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses se précipitent et le système de valeurs qui était encore en vigueur il y a, mettons, 25 ou 30 ans, n'est plus reconnu comme absolument indiscutable.
Mais si l'adulte sait... qui il est, s'il connaît bien le sens de sa vie, il peut aider l'adolescent.
Bien entendu, mais le sait-il toujours? Et puis, quelles sont les capacités de tolérance de l'adulte lui-même au changement auquel nous sommes soumis à un rythme précipité?
Car là intervient le rôle des parents. Lorsque vous étiez adolescent, vous aviez, vous, déjà des idées de médecine, votre père était médecin et chercheur.
Oui.
Vous comprenait-il? Le compreniez-vous?
Oui, là, ça a été relativement facile, dans la mesure où j'ai un peu emboîté le pas. Et... bon, d'ailleurs, ça facilite les choses quand le fils embrasse la même profession que son père. Et puis, entre la médecine que mon père avait apprise durant ses études et celle que j'apprenais, il n'y avait pas un énorme décalage. Tandis que maintenant, entre la médecine que j'ai apprise et la médecine que les jeunes apprennent maintenant, vraiment, il n'y a plus de changement qu'entre la médecine du XVIIe siècle et la médecine d'avant-guerre.
Tout s'est joué en 30-40 années.
Ah oui, une accélération considérable des choses du fait... Bon, pas, peut-être pas tant du fait des médecins proprement dit que du fait des gens qui travaillent dans les laboratoires.
Il y a également, professeur André Bourguignon, cette question d'écart, car l'écart grandit entre ce que l'enfant, enfin ce que l'adolescent sait faire et ce que la société lui permet de faire.
Exactement, ça on ne lui accorde pas très rapidement un statut civique complet. Quand on prend par exemple le seul critère de la responsabilité légale, mais au XVIIe siècle, un enfant de 8 ans était considéré comme responsable. Et l'âge de la responsabilité, c'est-à-dire de l'accès à l'âge adulte, n'a cessé de reculer. Et maintenant, il faut approcher de la vingtaine d'années pour être considéré comme responsable. Autrement dit, on exige toujours plus de l'adolescent et on lui donne de moins en moins de pouvoir et de responsabilité.
On lui fait moins confiance qu'autrefois.
Oui, peut-être. On le tient, on l'infantilise. Je ne crois pas que ce soit un progrès. Vous
savez, non, est-ce le progrès qui est responsable?
Ça, je ne saurais pas donner d'explication, mais vous savez qu'il y a des cultures dans lesquelles il n'y a pas de crise d'adolescence. Parce que, d'emblée, on considère qu'à l'âge de la puberté physiologique, l'enfant devient un adulte.
Bon, quelle culture, par exemple?
Dans des cultures africaines ou dans des cultures amérindiennes où... Bon, on lui donne un arc, il va accéder à tous les outils de chasse ou de pêche qu'utilise l'adulte. Mais on ne confie pas à un enfant de 12 ou 13 ans une automobile ou...
Parce qu'il devra se défendre.
Non, parce que je pense qu'on estime qu'il ne sait pas assez de choses, parce que maintenant, il faut un savoir et une expérience très... Comment dirais-je, très abstraite. Hein, on exige de plus en plus de connaissances abstraites, alors qu'avant, il s'agissait de pratiques, d'expériences qui étaient transmises directement du père au fils dans la vie quotidienne. Tandis que maintenant, les pères, ils transmettent presque plus rien à leurs enfants. Les enfants acquièrent les choses sur les bancs de l'école, puis de l'université.
Vous voulez dire par là qu'il y a démission des pères?
Mais non, c'est par la force des choses.
La force des choses.
Puis la plupart des pères sont incapables de suivre les études de leurs enfants.
Mais le concept de maturité se fonde sur quoi?
Ben, ce concept se fondait sur une certaine façon d'envisager la vie de l'homme, avec des étapes, bon, où on s'épanouissait, on grandissait progressivement, on acquérait le maximum d'expérience et de savoir à un certain âge, puis on passait à la vieillesse et on mourait. Tandis que maintenant, c'est plus du tout ça, il n'y a pas d'évolution progressive. On voit que les hommes, quand ils sont engagés dans des professions qui exigent certaines connaissances, eh bien, sont obligés de se recycler, comme on dit, de façon périodique. C'est-à-dire, rien, comme vous le disiez tout à l'heure, rien n'est définitivement acquis. Comme s'il fallait toujours tout refaire, parce qu'on est toujours désynchronisé ou décalé par rapport au niveau d'acquisition du moment.
Mais vous, professeur André Bourguignon, vous avez bien compris, bien respiré le moment où vous accédiez à la vie adulte. C'est un passage qu'on n'arrive pas à fixer.
Si vous voulez, dans les études de médecine, puisque dans ce temps-là, il y avait une série de concours... On était stagiaire, externe des hôpitaux, puis interne des hôpitaux. C'était le passage de l'internat. Quand on devenait interne, c'est-à-dire responsable d'une salle des malades, où on prenait des décisions thérapeutiques, où on prescrivait des médicaments, quitte à être contrôlé, bien entendu, par un patron ou ses assistants, mais on avait vraiment des responsabilités à prendre. Et je crois que c'est ça qui marque. C'est la prise de responsabilité, c'est dans une certaine mesure le pouvoir qui nous est conféré, qui fait que nous devenons adultes.
Alors l'homme, on le dit, est un enfant. Est-il raisonnable de vouloir jouer aux adultes?
Bon, en chacun de nous, il y a toujours un enfant qui survit d'ailleurs, heureusement, parce que c'est peut-être dans cet enfant qui survit en nous que nous puisons toutes les forces créatrices et les forces d'imagination. Et il ne faudrait pas étouffer en nous tout cet aspect enfantin.
Mais certains refusent pourtant tous leurs souvenirs d'enfance et même d'adolescence, tout cela parce qu'ils croient que c'est un recommencement ou un commencement.
Oui, ou parce que l'enfance est considérée comme un état inférieur qui n'a pas une grande valeur dans une civilisation où tout est au niveau du savoir scientifique, de la capacité technique, et où on méprise un peu certaines valeurs, si vous voulez, non rentables et gratuites, hein, telles le jeu, telles la création sans but, pour le plaisir.
L'adulte et l'adolescent rêvent-ils de la même manière?
Ah ben oui, ils rêvent quantitativement de la même manière. Qualitativement, les rêves de l'adulte et de l'adolescent peuvent se ressembler dans une certaine mesure. Si vous voulez, dans la mesure où, pendant le sommeil, on régresse à des états antérieurs et où, à ce moment-là, tout notre passé devient présent. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de discrimination en ce qui appartient à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Tout est mélangé, c'est pour ça que c'est ce qui donne souvent l'aspect un peu inattendu et comique de certains rêves. Tous les âges de la vie sont mêlés.
Enfin, vous connaissez la phrase de Nerval, et je l'ai retenue. Le rêve est une seconde vie, les premiers instants de sommeil sont l'image de la mort. Le rêve est une seconde vie.
Oui, oui, mais je pense que c'est...
C'est un psychiatre que vous le dites, vous aussi.
Oui, oui, et en tant que... m'étant beaucoup penché sur le problème du rêve depuis quelques années, justement, et ça se relie à mes antécédents, si vous voulez, et à mon hérédité physiologique.
C'est-à-dire?
Parce que c'était un moyen, du fait de toutes les découvertes qui se sont faites au niveau physiologique en ce qui concerne le rêve, c'était un moyen d'articuler, si vous voulez, la physiologie dont je me suis occupé autrefois et la psychiatrie dont je m'occupe maintenant.
Mais pourquoi poursuivez-vous le rêve comme étude?
Ah ben parce que...
Rêver le rêve.
Non, parce que moi je trouve que le rêve c'est assez fascinant dans la mesure où il s'agit d'une pensée vraiment spontanée, hein, qui ne doit rien au monde extérieur, qui ne doit rien à l'instant immédiat, qui doit bien entendu un peu à ce qui s'est passé durant la veille, et qui doit beaucoup à tout notre passé.
Comme les psychiatres, vous dites, le poète voit. Mais le poète est-il le seul à voir? Et vous dites même, parce que je l'ai lu dans une de vos études, le poète voit avant le savant.
Oui.
C'est-à-dire découvre avant le savant. Ce qui me paraît étonnant.
J'ai même dit que le poète peut voir sans découvrir.
Oui.
C'est-à-dire qu'il voit à travers les voiles.
Il est un visionnaire, alors.
Oui, absolument. Mais il n'y a pas que la connaissance scientifique, comme... procédé de connaissance, la connaissance poétique, la connaissance mystique, sont des voies d'accès à des réalités humaines de très grande valeur.
Oui, on en arrive à une autre étude, alors la magie est une science et la science est une magie. Mais le rêve est dépassé.
Si vous voulez, on peut étudier scientifiquement la magie et on peut découvrir dans nos pratiques scientifiques actuelles des traces de pensée magique. Nous n'échapperons jamais à la pensée magique. D'ailleurs, elle a une telle force, un tel pouvoir, ça représente une telle poussée dans notre façon de penser qu'il faut sans cesse s'en méfier, mais on la chasse par la porte et elle revient par la fenêtre aussitôt.
Professeur André Bourguignon, quelle est la théorie de Freud sur le rêve? Comment il l'analyse, lui?
Ah ben, Freud lui avait résumé sa position en disant que le rêve était réalisation de désirs. Bon, et tout son gros livre sur le rêve est une vaste démonstration de cette théorie. Le rêve, réalisation de désirs. Le désir étant considéré comme la force motrice la plus puissante de notre vie psychique.
Il y a trois états, en fait. Il y a la veille.
Oui.
Il y a le sommeil.
Oui.
Et il y a le rêve.
Et le rêve, oui.
Et on dit souvent que la veille, c'est l'état le plus riche, parce que c'est peut-être une position d'attente.
Je dirais pas le plus riche, c'est l'état dans lequel on a le maximum de possibilités. C'est-à-dire...
La veille, on ne dort pas encore.
Non, il faut appeler la veille, c'est la journée. Hein, c'est... nous sommes dans l'état de veille, vous et moi, en ce moment.
Mais on attend. On attend le sommeil.
Ah ben, quand l'heure sera venue, on aura envie de dormir.
Mais beaucoup l'attendent toute la journée.
Ah ben oui, alors à cela, c'est que vraiment, la vie leur apporte pas grand-chose, hein, et qu'ils préfèrent s'enfermer dans le sommeil et peut-être dans le rêve. Mais la vie, quand on a les yeux ouverts, est tellement riche. Et on a de telles possibilités sur le plan psychique, puisqu'on peut se concentrer sur des abstractions, on peut se concentrer sur des objets extérieurs à nous-mêmes, on peut rêvasser, on peut se laisser aller à la rêverie. Donc, si vous voulez, les modalités d'activité de notre psychisme sont quasi infinies à l'état de veille. Tandis que dans le sommeil, on est un peu enfermé. Là, on va doucement sombrer vers une espèce de ralentissement général de toutes les fonctions. Et puis, de temps à autre, des phases d'éveil, moi je considère que ce que Jouvet a appelé la phase paradoxale, je considère que ce sont des phases d'éveil, d'un éveil très particulier sur le monde intérieur. Mais alors là, nous perdons, si vous voulez, le caractère réfléchi de la conscience. Nous ne pouvons pas revenir sur notre propre pensée. Nous ne pouvons, on devrait en principe pas pouvoir conjuguer le verbe rêver à l'indicatif présent. On ne devrait pas pouvoir dire « je rêve ». On peut dire « j'ai rêvé », mais on vit l'instant du rêve, mais on ne réfléchit pas.
Le rêve, si on dit « je rêve », est donc un paradis.
Alors, c'est pour ça que Nerval a dit que le rêve est une seconde vie, parce que c'est une vie différente de celle que nous menons dans la journée à l'état de veille.
Monsieur le professeur, dès lors que les hommes et les femmes ont un peu de temps de libre, même en pleine journée, ils s'inventent un univers et ils commencent à rêver. Ils ont besoin de cela. C'est...
Oh, pas tous.
Non, beaucoup le font.
Beaucoup, oui, oui.
J'ai parlé avec beaucoup de gens qui le font.
Oui, oui, oui.
Ils ne sont pas du tout ceux qu'ils sont. Ils s'inventent un autre univers et ils sont différents de ce qu'ils sont dans la vie. Et c'est parti. Est-ce nécessaire d'agir comme ça ou bien alors y a-t-il là un défoulement?
Ah non, moi je pense que
qu'il faut contrôler.
C'est très utile. Ce que vous décrivez là, on l'appellera, certains l'appelleront rêverie, les autres l'appelleront fantasme. Moi je crois que c'est absolument indispensable de pouvoir fantasmer à plusieurs moments de la journée. Enfin, d'ailleurs on le fait en faisant sa toilette, on le fait en marchant, on le fait... On est dans la lune, disent les autres, quand ils nous surprennent dans ces situations-là. Moi, c'est indispensable. On ne peut pas vivre uniquement tourné vers le monde extérieur. Il faut venir à la source de sa propre vie intérieure.
Alors maintenant, prenons le sommeil. Le sommeil, et vient le rêve. Le rêve est une chose attendue, une chose qu'il faut avoir vécue. Vous ne comprendriez pas un homme qui n'a jamais rêvé. Ça n'existe pas, d'abord.
Non, mais il y a des gens qui vous diront, ils vous diront « je n'ai jamais rêvé ». En fait, ils ont rêvé, mais ils ne se sont pas souvenus de leurs rêves. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves.
C'est grave de ne pas se souvenir de son rêve?
Ah, moi, je trouve que c'est inquiétant pour la civilisation que les êtres humains se souviennent de moins en moins de leurs rêves. Vous savez qu'il y a des sociétés dans lesquelles, des sociétés dites primitives, dans lesquelles on ne décide rien des activités de la journée, si on n'a pas examiné les rêves des uns et des autres, les rêves des enfants, on organisera la journée en fonction de ça. Enfin, il y avait des généraux de l'Antiquité qui n'engageaient pas une bataille s'ils n'avaient pas soumis leurs rêves à quelques devins. Bon, c'est...
Mais quelle est la fonction du rêve?
Je pense que le rêve, avant tout, nous permet de nous débarrasser des tensions internes qui n'ont pas pu se libérer, se décharger au cours de la journée, parce que nous vivons dans un monde organisé, dans lequel il y a des lois, il y a des interdictions, il y a des limitations, on ne peut pas tout faire, et heureusement d'ailleurs, hein, s'il fallait faire tout ce dont on rêve, il n'y aurait pas de vie sociale possible. Donc, le rêve serait cette période où nous pouvons, de façon totalement inoffensive, et pour nous et pour nos semblables, vivre tous nos désirs les plus fous et les plus interdits.
La privation de rêve est chose grave.
Bon, ah, ça c'est à l'heure actuelle l'objet d'une très très vaste discussion dans les milieux qui s'occupent de la physiologie du rêve. Enfin, disons que la privation de phase paradoxale, dans laquelle se produit vraisemblablement la majorité de nos rêves, cette privation, On pensait autrefois que c'était grave pour l'équilibre psychique. Or maintenant, on a des substances chimiques qui permettent de supprimer complètement cette phase paradoxale. Bon, et on s'aperçoit que les gens ne deviennent pas fous pour autant. Mais moi, je demande à voir ce que seront des gens à qui on a supprimé la phase paradoxale pendant 20 ans. Hein, vous savez qu'il a fallu 10 à 15 ans pour s'apercevoir que les rayons X étaient nocifs. Alors en ce moment, on est un peu apprenti sorcier avec toutes les substances qui ont une action directe sur le système nerveux central. Parce que rien ne nous dit que ces substances qui sont apparemment inoffensives dans l'immédiat, eh bien, si leurs effets sont cumulés pendant des dizaines d'années, ben, rien ne nous dit que ça ne produirait pas, au bout de ce temps, des dégâts.
Mais vous, psychiatre, vous interprétez les rêves ?
Non, vous savez, on interprète beaucoup moins les rêves que du temps de Freud. D'abord, on ne peut pas faire d'interprétation de rêve sans que le patient ait livré ses associations.
Mais il le fait souvent.
En psychiatrie proprement dite, on n'utilise pas préférentiellement le rêve. C'est peut-être un tort, d'ailleurs. Enfin, il ne semble pas que ce soit une arme, comment dirais-je, ayant une efficacité thérapeutique directe. Je pense que c'est presque plus une voie de connaissance de l'inconscient du sujet.
Il y a des rêves que j'appellerais, moi, généralisés. Par exemple, vous êtes dans votre nuit, vous rêvez, un homme vous poursuit, vous courez, et plus il vous rattrape et vous n'arrivez plus à bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ?
C'est ça, ce sont ce qu'on appelle des rêves typiques. Il y en a un certain nombre.
Nous sommes tous à faire ce rêve.
Oui, je crois, parce que tout le monde a fait ce rêve de poursuite avec l'impression d'être paralysé et de ne plus pouvoir avancer.
C'est l'angoisse, c'est...
Bon, ce sont des rêves d'angoisse qui aboutissent habituellement au réveil. Et c'est peut-être en relation aussi avec le fait que pendant cette fameuse phase paradoxale, nous sommes paralysés. Nous ne pouvons pas bouger nos muscles, nos membres, et ça doit intervenir, je pense, dans ces rêves-là.
Mais est-on vraiment paralysé ?
Si, vraiment.
Vraiment.
Le sujet ne pourrait pas se lever et marcher, non.
À cette millième de seconde précis.
Il y a une abolition du tonus musculaire, complète.
Mais il ne faut jamais enlever à un homme la possibilité de rêver.
Oh, moi, je pense que le sommeil et le rêve sont absolument indispensables. Si vous supprimez, alors ça c'est absolument sûr, si vous supprimez à un sujet toute possibilité de dormir et par conséquent de rêver, alors là vous allez entraîner des troubles psychiques assez graves en quelques jours.
C'est la mémoire qui est fidèle lorsqu'elle retient le sens d'un rêve ? Pas le sens d'un rêve, là.
Quand on se souvient d'un rêve,
oui.
Pour se souvenir d'un rêve, il faut se réveiller très peu après la fin du rêve, autrement on n'en a pas de souvenir.
Est-ce qu'il y a une fonction de substitution ? Pour les gens qui ne rêvent pas, que faut-il mettre à la place du rêve ? Puisque le rêve est tellement nécessaire.
Mais je pense que tout le monde rêve la nuit.
Mais certains, ceux qui disent « je ne rêve pas, je n'ai jamais rêvé ».
Mais ils rêvent quand même. Oui.
Mais ils ne le savent pas.
Ils ne le savent pas, non. Et ça se comprend. Vous savez, il suffit de s'intéresser aux rêves pour se souvenir beaucoup mieux de ses rêves. Hein. Alors, comme nous sommes dans une culture où tout ce qui est rêve, imagination, tout ça est plutôt dévalorisé parce que ça n'est pas immédiatement rentable, c'est pas productif, eh bien les gens perdent l'habitude de rêver. Mais on a des statistiques du début du siècle sur la proportion de gens se souvenant de leurs rêves. Il y a trois quarts de siècle, donc les gens se souvenaient beaucoup mieux de leurs rêves que maintenant.
Enfin, au bout du rêve, au-delà du rêve, mais très loin, il y a également... la catalepsie, il y a l'épilepsie. Est-ce que vous le considérez ainsi ? Certains considèrent qu'on peut parler de la sorte.
Non, parce que vous faites allusion là, à une maladie qu'on appelle la maladie de Gélino, hein, qui est ce qu'on appelle la narcolepsie cataplexie, et qui est une maladie relativement rare, moins rare qu'on ne le pensait d'ailleurs, et qui en fait se traduit par la survenue dans la journée, d'éléments de cette fameuse phase paradoxale, qui est la phase préférentielle du rêve. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui brusquement s'écroulent, perdent leur tonus, sans perte de conscience, ou bien des gens qui s'endorment et se mettent à rêver. Mais moins d'une minute, puis ils se réveillent. Ça peut survenir comme ça.
On parlait de l'épilepsie, c'est une maladie? Une maladie psychique?
Ah, une maladie psychique, vous allez un peu vite. Si vous voulez, autrefois, avant qu'on ait des moyens d'investigation modernes des sujets épileptiques, bon, on pensait que c'était une maladie psychique. Bon, et puis, on a eu l'électroencéphalogramme, on a eu des tas de possibilités d'investigation, et on a considéré l'épilepsie comme une manifestation purement neurophysiologique. Et alors, plus récemment, grâce à des techniques encore plus affinées, on s'est aperçu que la vie psychique intervenait dans la survenue des crises et des manifestations de l'épilepsie. Ça, c'est grâce à des méthodes d'enregistrement télémétrique, c'est-à-dire qu'on met des épileptiques libres de vaquer à leurs occupations en mettant des électrodes sur leur tête. Ce sont des électrodes émettrices. Il y a un sujet qui surveille le tracé électroencéphalographique et puis un autre qui surveille le sujet épileptique. Et dès qu'on voit apparaître des signes électriques qui sont plus ou moins spécifiques de l'épilepsie, on interroge pour savoir ce qui se passe au niveau psychique du sujet. Ben, on s'aperçoit que chaque fois qu'un épileptique a des soucis, est ennuyé, a une difficulté, va faire une colère, le cerveau réagit comme s'il allait amorcer une crise d'épilepsie. Donc, on revient un peu aux vieilles idées d'autrefois. En fait, on ne peut pas dissocier la vie du cerveau de la vie psychique. Tout ça ne fait qu'un. C'est arbitrairement qu'on dit qu'il y a d'un côté le corps, l'esprit.
L'épilepsie est une maladie héréditaire?
Dans certains cas, oui. Ou disons, la tendance à l'épilepsie peut être héréditaire.
Alors, on parle de psychiatrie, on parle des psychiatres. La psychiatrie est-elle faite pour guérir ou seulement pour neutraliser?
En posant le problème de la guérison, vous posez un problème qui est...
Oui, j'aurais dire soigner.
Très difficile sur le plan théorique, parce que... Qu'est-ce qu'on appelle la guérison, hein? Si vous avez une septicémie, est-ce que vous êtes guéri parce qu'on fait tomber la fièvre? Non. On raisonnait comme ça au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on soignait au niveau du symptôme. Maintenant, on ne soigne pas au niveau du symptôme, on soigne au niveau de la cause et des processus qui sont responsables des symptômes. Malheureusement, pour la psychiatrie, nous en sommes un peu encore au niveau du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on soigne des symptômes parce qu'on... On ne connaît pas encore, de façon précise et certaine, l'ensemble des facteurs dont la convergence va aboutir à l'état de maladie mentale. Si tant est que ce concept puisse avoir la même résonance, la même acception que dans le domaine de la médecine et de la chirurgie. Je ne pense pas.
Professeur Bourguignon, nous avons parlé du rêve, et nous parlons de psychiatrie, mais quelle importance accordez-vous à la mélancolie?
À la mélancolie? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Certaines personnes sont mélancoliques et partant de là, on dit elles sont au départ d'autre chose.
Non, mais là, vous évoquez dans notre langage, dans notre terminologie...
Ce sont les psychiatres qui
parlent souvent de mélancolie. Oui, non, mais la mélancolie, oui.
Tous m'ont parlé de mélancolie.
Oui, mais quand les psychiatres parlent de mélancolie, ça n'a pas exactement le même sens que quand... L'homme de la rue parle de mélancolie. Hein, il évoque simplement une simple tristesse. Non, pour nous, c'est la forme majeure de la dépression, hein, la dépression mélancolique. Mais vous avez tous les degrés entre les petits moments de dépression que n'importe lequel d'entre nous a dans la journée. Ce serait inquiétant si on n'était jamais déprimé, si on était toujours satisfait. Bon, on a tous des petits moments de dépression comme ça au cours de notre vie et il y a beaucoup de raisons de se déprimer. Ben, entre ça et la forme majeure, qui est la dépression mélancolique, vous avez toute la gamme des intermédiaires.
On en arrive maintenant à un mot qui fait peur, c'est le mot folie.
Oui, vous savez, c'est la reprise d'un vieux mot, presque dans le but de contrecarrer l'expression de maladie mentale. Hein. C'est... disons que c'est en partie Foucault qui a été responsable, hein, en intitulant son livre « Histoire de la folie à l'âge classique ». Ça n'a pas, si vous voulez, ça a plus une consonance psychosociologique qu'une consonance proprement psychiatrique. Hein. Les fous, ils seront désignés par la société, c'est la société qui dira « il est fou ». Mais pour nous, c'est un terme, c'est pas un terme technique, si je puis
dire. Donc c'est un mot faux, folie.
Non, il n'est pas faux, parce qu'il révèle le vécu de ceux qui observent les sujets qu'ils baptisent fous.
Mais la folie,
considère comme fou.
La folie peut-elle être inscrite dès la naissance dans la nature des êtres ?
Voilà, vous posez le problème de l'hérédité en psychiatrie. Bon, c'est un problème dont on n'a pas fini de débattre et qui est d'une difficulté quasi insurmontable du point de vue méthodologique. Bon, il est sûr que nos parents, par leurs chromosomes, ne nous transmettent pas seulement des caractères physiques et corporels, hein, qui nous transmettent également des caractéristiques psychologiques. La difficulté, c'est de savoir quelle est la part de l'hérédité et du milieu, hein, de l'inné et de l'acquis.
Il est vrai qu'il y a une inégalité biologique.
Alors oui, je pense que tout le monde ne naît pas avec la même qualité de tissu, tout le monde ne naît pas
avec la même personnalité, la même intelligence.
Pourquoi dites-vous inégalité ? Vous émettez un jugement de valeur quand vous dites ça et vous rendez mauvais service. Hein ?
Alors quel mot faut-il employer ?
Différence. Je crois que...
Il faudrait s'entendre sur les mots alors.
Et oui, c'est très important.
Il y a tout un dictionnaire
à composer. Je pense qu'un langage vraiment scientifique, c'est un langage qui a réussi à éliminer, bon, on n'y arrive jamais totalement, qui a réussi à éliminer toutes les notions de valeur, qui sont de l'ordre du bien, du mal, du supérieur, de l'inférieur, Bon, parce qu'à partir du moment où vous introduisez une valeur, un jugement de valeur, bon, que vous différenciez les individus entre, bon, ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont inférieurs, ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais...
C'est la société qui installe ces mots.
Ah oui, 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 parce qu'elle a besoin de...
Ce sont des mots faciles, d'ailleurs.
Très faciles, oui. Mais à partir du moment où on se dit seulement que l'autre est différent...
Mais si déjà, par exemple, on s'habituait à dire différent plutôt qu'inégal, les choses iraient vite mieux.
Mais je pense, oui, ce problème se pose dans le domaine de l'anthropologie et le problème du racisme. C'est exactement le même problème. L'attitude de la société à l'égard des fous, comme on dit, et l'attitude de la société vis-à-vis du problème du racisme. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne supportent pas une couleur de peau ou une autre ?
Vous, professeur Bourguignon, vous avez fait une expérience intéressante. Vous avez étudié l'image du fou dans les journaux.
Oui, j'ai demandé à une de mes élèves de faire cette étude et elle a fait une étude linguistique quantitative. Elle a dénombré... elle a pris 5 quotidiens.
Parisiens,
oui. Elle a dénombré les substantifs et les épithètes qui étaient utilisés, aussi bien dans les articles de fond que dans les articles relatant les faits divers, pour parler de la folie. Et elle est arrivée à des conclusions très intéressantes. La première, c'est que, quel que soit le niveau culturel ou la couleur politique du journal, on parle toujours de la même façon de la folie. Ce qui montre que... C'est
l'identité.
C'est une attitude vraiment qui est, comment dirais-je, transculturelle et transsociologique, enfin au-delà des classes sociales.
C'est une habitude.
Non, ça montre que tout le monde réagit dans une culture donnée à tel phénomène un peu de la même façon. La seconde chose qui est apparue dans cette enquête, c'est que le mot qui est employé le plus souvent et de beaucoup, peut-être, je crois que ça atteint 50%, c'est le mot « forcené ».
Le forcené, oui.
C'est le seul mot de la langue française qui permet de conjuguer la violence et la folie. Et du même coup, ce mot n'est jamais employé qu'au masculin. Une femme peut tuer ses 5 enfants et se tuer après, jamais un journaliste ne dira que c'est une forcenée. On dira la malheureuse ou...
Une désespérée.
Ou une désespérée, tout ce que vous voudrez, mais... Le méchant, l'homme à abattre, c'est le forcené, c'est-à-dire un homme qui conjugue en lui, qui associe en lui la folie et la violence. Et c'est ça. Alors, ces stéréotypes jouent un rôle considérable dans l'intolérance sociale à l'égard de...
Enfin, tous les cas sont des gains individuels. Mais professeur André Bourguignon, je voudrais, par exemple, vous rappeler deux affaires. La première, c'est un garçon de 16 ans qui tire au fusil de chasse sur des passants. Alors, bien sûr, la presse va dire le forcené.
Oui.
Mais vous, vous essayez de comprendre.
Ben, oui, moi, si je veux comprendre, je ne peux pas commencer par émettre un jugement de valeur. Hein, je ne peux pas émettre un jugement moral. Ce n'est pas ma fonction. C'est le magistrat qui, lui, aura à dire s'il est coupable ou innocent. Mais moi, en tant que médecin, c'est un homme et je lui dois d'abord le respect. Je dois essayer de comprendre par quel mécanisme, quelles circonstances il a été amené à commettre cet acte.
Bon, il y a ce deuxième fait divers, un homme qui demande du feu, cela se passe en Amérique, une dame lui donne du feu, il remercie, il fait 20 mètres, il revient et dit « Pardonnez-moi madame, puis-je vous tuer ?» Il la tue. Est-ce, peut-on dire de cet homme qu'il est fou ?
Si vous voulez, pour employer un langage courant, vous...
Oui, justement, c'est le mot.
Non, mais vous direz qu'il est fou parce que son comportement est... en apparence totalement aberrant, mais vous n'aurez pas avancé d'un pas quand vous aurez émis ce jugement. Vous aurez dit, il est fou. Bon, mais peut-être que
non, ce serait trop facile.
Si on l'examine, si on essaye de le comprendre, bon, ça ne ressuscitera pas la dame, mais on pourra donner une explication. Ce que je veux dire, c'est qu'au XIXe siècle, on a considéré le fou comme un insensé, c'est-à-dire quelqu'un dont les actes, les pensées, les paroles étaient dépourvus de sens. Ce que nous savons maintenant, c'est que ça a un sens. Ça n'est pas le sens commun. C'est un sens qui est personnel au sujet, mais ça a un sens. Or, si on veut redonner à ces sujets une certaine valeur humaine, je pense qu'il n'est pas forcément bon et utile de les mettre hors la loi. Parce que ça veut dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'a pas de sens. Qu'on se protège contre eux. Il faut que la société se défende, se protège. Bon, elle n'arrivera jamais à se protéger à 100% contre rien. Hein. Exemple, les accidents d'avion et les accidents d'automobile. Pourquoi est-ce qu'on tolère ça et qu'on ne tolère pas qu'un seul être tue une personne, si vous voulez? Il y a des milliers de gens qui meurent du fait de la technique. Bon, les gens tués par les fous en France en une année, on les compte sur les doigts d'une main, je pense.
Vous êtes aperçu, professeur, que... il y avait des cas d'opposition, père-fils, par exemple.
Oui.
C'est le cas le plus répandu.
Quoi, vous parlez des conflits intrafamiliaux?
Oui, mais qui conduisent justement à ce que des enfants soient après appelés des forcenés.
Oui, il arrive que dans certaines familles, on mette les enfants dans des situations tellement intolérables qu'ils se mettent à passer à l'acte. Mais je ne veux pas dire que les parents soient responsables pour autant. Ils sont tout à fait inconscients de la portée de leurs actes et de leurs paroles. C'est vraiment pas de chance.
On en revient à ce que nous disions tout à l'heure, ce passage de l'adolescence, de l'adolescent à l'âge adulte, ce côté également enfant livré à lui-même.
Oui, et puis alors il y a des différences quand même de personnalité. Vous avez des adolescents ou des enfants qui sont très impulsifs, qui n'ont pas une très grande capacité de supporter l'angoisse ou la privation ou la frustration et qui immédiatement passent à l'acte. Donc ça, c'est un signe d'immaturité. Enfin, c'est l'état de nourrisson.
Mais dans tous les cas, le public ne retient que la folie. Oui. Cela parce qu'il ne veut pas se poser de questions.
Moi, je pense qu'on ne fait peut-être pas tout ce qu'on pourrait et devrait faire pour... informer le public. Je crois que quand on se donne la peine d'expliquer aux gens, ils acceptent, ils comprennent beaucoup mieux les choses.
C'est l'opinion qui impose le fou. Enfin, le mot fou.
Si vous voulez, chaque société a ses normes. Hein. Il y a des sociétés qui ont des normes diamétralement opposées. Vous connaissez les fameuses études de Margaret Mead en Nouvelle-Guinée, qui découvre à 100 ou 200 kilomètres de distance deux sociétés qui ont un système de valeurs diamétralement opposé. Dans l'une de ces sociétés, on est considéré comme un homme normal. Si on est très agressif, c'est une tribu de coupeurs de tête. Dans l'autre société, on est considéré comme un homme normal si on est doux, pas agressif et... Ça, il n'y a pas d'autre. C'est la société qui définit.
Mais quels sont les rapports qu'entretient la société avec la folie?
Ce sont des rapports d'ordre légal, principalement, puisque la société fait émettre par ses représentants un certain nombre de lois pour se protéger contre les malades mentaux. Mais enfin, en ce moment, la situation est en train de changer, et on peut dire que c'est une espèce de révolution, puisqu'on considère que les classiques hôpitaux psychiatriques construits sous le Second Empire ne sont peut-être pas la meilleure façon de résoudre ce problème de la folie. Donc on pratique une politique plus libérale, de porte ouverte, qui au total ne comporte sans doute pas plus de risques que ces grands hôpitaux-prisons du 19e siècle.
Enfin, on donne trop comme inséparables folie et violence, ou violence et folie.
Oui, je crois, oui, ça c'est...
Tout vient de là.
Enfin, je dis pas que tout vient de là, mais enfin, ce stéréotype, cette alliance, cette conjugaison de la folie, de la violence et de la dangerosité est tout à fait...
Effacer la personnalité d'un forcené, puisque vous avez employé le mot forcené, oui. C'est quand même une tranquillité pour la société.
Ben oui, mais c'est très dangereux parce que... Quittez les hommes et prenez simplement les chiens. Vous savez très bien qu'on est mordu que par les chiens dont on a peur. Si vous entretenez chez les gens la peur du fou, du malade mental, il y aura toujours de l'agressivité qui apparaîtra d'une façon ou d'une autre.
Et il est vrai qu'on insiste toujours sur la violence du fou, parce qu'on a peur de sa parole, j'imagine.
On a peur de sa parole, de ses actes, de son habillement, de toute sa manière d'être. Et puis, c'est angoissant de ne pas comprendre ce que les gens disent ou font. C'est très, très, très angoissant.
Il y en a beaucoup également qui se disent « Je suis bizarre, mais je ne suis pas fou. » Alors, le bizarre dans une vie, qu'est-ce que c'est?
Ah ben, il y a des bizarreries, si vous voulez, que la société tolère très, très bien. D'ailleurs, je pense que moi, heureusement, la plupart des malades mentaux ne voient jamais un psychiatre. Parce qu'ils ont des habitudes, des manières d'être qui sont très bien tolérées. Il y en a même qui arrivent aux plus hautes destinées historiques. Hein, aucun Allemand en 1940 n'aurait pu imaginer que son Führer présentait quelques anomalies psychiques.
Mais vous, le psychiatre, vous pouvez le dire, sommes-nous entourés de fous qui sont bien en place?
Si vous voulez, c'est un problème insoluble que vous posez. Je crois que c'est un faux problème. Parce que si vous voulez bien définir la pathologie ou la folie, il faut d'abord que vous me définissiez la normalité. Or, jusqu'à présent, personne n'a défini la normalité psychique. Dans l'absolu, on peut définir des normes sociales. Si vous voulez, la façon dont vivait... nos compatriotes, les Français, au Moyen-Âge, au XVe siècle, nous paraîtraient complètement folles. Ils faisaient des choses que nous ne tolérerions pas. Bon, ils allaient tout nus, tous ensemble, les hommes, les femmes, dans les bains publics.
C'est le streaking.
Non, mais c'était pas choquant pour la société. Tandis que maintenant, allez vous promener tout nu dans la rue, vous serez immédiatement conduit au commissariat de police. Or, il y a des familles qui allaient au bain public en laissant leurs vêtements à la maison et qui se rendaient donc au bain public dans la rue, tout nu. Mais ça choquait pas au Moyen-Âge. C'est donc une question de coutume, d'habitude.
Le fou est plus aliéné par le diagnostic du public que par sa vraie folie. Si folie il y a.
Oui, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on appelle folie, autrefois, était réduit à un temps relativement court. C'est la façon dont on s'est comporté avec les malades mentaux qui en a fait des maladies chroniques. Si vous prenez les ouvrages de psychiatrie, le professeur Lanteri-Laura a fait un très bel article historique là-dessus, si vous prenez les ouvrages de psychiatrie du début du 19e siècle, on ne parle jamais de chronicité. La folie, c'est toujours quelque chose d'aigu, de bref, de temporaire. Alors que maintenant, on considère la folie, c'est à vie. Et non, on a des épisodes où les sujets sont très bien, d'autres ils sont moins bien. c'est vrai qu'ils ont besoin d'être suivis et aidés souvent toute leur vie, mais il n'y a pas besoin de les enfermer pendant 30 ans. D'abord, ça coûte très très cher à la société.
Professeur André Bourguignon, on pourrait revenir parce que le temps passe très vite avec vous. Il est déjà 17h58, je ne m'en suis pas aperçu.
Et moi non plus.
Que pensez-vous de cette impression que l'on a parfois d'avoir déjà vécu l'instant présent? On en revient un peu au rêve.
Oui, 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 je vois l'impression de déjà-vu, c'est de
déjà
ça.
Déjà-vu, oui.
C'est de ça que vous voulez parler.
Parfois c'est un monument, parfois c'est un paysage, d'autres fois c'est une
idée, personne.
Une personne.
Ou une personne même. Moi je pense que c'est dû au fait que un certain nombre de souvenirs, et Dieu sait si nous en avons, hein, d'emmagasinés en nous et que nous ne faisons jamais ressurgir, hein, mais on a un magasin très bien rempli, que certains souvenirs vont brusquement entrer en correspondance avec une situation présente. Si vous voulez, c'est le problème un peu de la Madeleine de Proust. Il plonge sa Madeleine dans la tasse de thé, la porte à sa bouche, et brusquement, tout le passé, donc du déjà-vu, revient. Je pense que c'est un phénomène un peu de cet ordre.
Les rêves sont prémonitoires.
Dans la mesure où il y a toujours une partie de nos désirs qui se réalise, on peut le dire, oui. Parce que ce sont nos désirs qui s'expriment avant tout dans les rêves.
Vous, psychiatre, professeur André Bourguignon, lorsque vous rêvez en couleur?
Quand je me réveille immédiatement après la fin du rêve, hein, alors là, j'ai des souvenirs de couleur. Mais c'est l'élément du rêve qui s'efface le plus vite.
Il faut rêver en couleur?
Oh, il faut. Vous voulez toujours des normes, des impératifs. Tout le monde rêve en couleur. C'est comme ça. Bah parce que nos souvenirs, nos impressions visuelles sont colorées. Mais c'est un élément fragile et fugace du rêve et qui disparaît.
Vous voulez également enlever des conversations, le mot il faut, il est nécessaire, on doit, il faut se laisser aller.
Ben, je pense, oui, que si on gagnait un peu en spontanéité, on enrichirait notre vie et celle de nos voisins.
Merci, professeur. France Inter 18h, j'ai accueilli aujourd'hui le professeur André Bourguignon, Radioscopie Jacques Chancel. Demain, nous ne serons pas à Paris, nous serons en direct de Monte-Carlo et à Monte-Carlo, je